à voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Sandelard rencontre Manu Dibango. Ce soir, un pied dans les clubs, l'autre dans le showbiz.
Bonsoir Manu Dibango.
Bonsoir.
Alors hier, nous évoquions votre arrivée en France, à Saint-Calais, dans la Sarthe. Vous avez été accueilli par une famille d'instituteurs pour poursuivre vos études à l'âge de 15 ans. La rencontre avec Francis Bébé, un artiste camerounais qui a beaucoup compté pour vous. La découverte du jazz dans le Paris des années 50, le Paris si cher à Boris Vian. Votre fascination pour les jazzmen américains. Votre échec au bac philo. Et enfin, votre départ pour Bruxelles. 1956, vous partez à Bruxelles.
Yamenir, comme on dit. En fait, je dirais plutôt 57, quoi, parce que c'était un peu... Ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, on dirait que tu te laisses faire par des événements, que c'est pas toi qui décides. C'est ça qui est important, parce que y a pas de plan de carrière. Je peux pas dire que c'est prédestiné. Je vais à Bruxelles. Pourquoi je vais à Bruxelles? Pourquoi là? Pourquoi pas là? Des trucs comme ça. Mais je suis un peu un naïf. Je crois à mon copain qui s'appelait Aimé Barou, d'ailleurs, qui a fini patron de la Croix-Rouge, un banquier. Il a fait des études de banque. J'ai loupé le bac, mais je faisais des études de supérieures de commerce quand même, en même temps, tu vois.
Le sens des affaires.
Voilà, donc... Et donc, je suis ses conseils et je m'en vais à Bruxelles. Et c'est là où les rencontres, alors avec des musiciens, il y avait beaucoup de jazz à l'époque à Bruxelles. Il y avait le plan Marshall qui a fort beaucoup marché en Belgique. Ça veut dire qu'ils avaient les belles bagnoles américaines qu'on voyait dans le cinéma et tout ça. Beaucoup moins cher qu'à part. D'ailleurs, 6 mois après à Bruxelles, j'ai déjà ma grosse... bagnole et tout ça, je viens à Paris avec la voiture Studebaker jaune citron, tu vois, pour pas se faire remarquer. J'arrive et vous n'arrivez me couper à la cité universitaire, tu vois. Bon, ça c'est le bon côté de, ben disons que là je rencontre énormément de musiciens, on joue de tout.
Et c'était le monde de la musique et de la nuit qui vous attirait?
Voilà,
des
c'est
cabarets.
Le monde de la nuit, parce que en fait je n'ai plus jamais... J'ai parlé études, hein, c'était terminé. Je faisais les études de musique du coup, et les études de la vie et de la musique en même temps, parce que je jouais de tout dans un cabaret privé où le roi qui vient d'abdiquer là à Bruxelles, il était client dans le club où je jouais et il venait avec tous les nobles de l'époque. C'était un club privé qui appartenait à un noir français, parce que les noirs belges, eux, ils pouvaient pas venir en Belgique. Il y a que nous qui pouvions aller en Belgique. Et tu, si tu avais la possibilité, tu ouvrais un club privé avec un Belge. Et ces clubs-là marchaient. Et c'est là où j'ai été jouer. Hein, ça s'appelait Le Tabou. Hein, le patron, c'était Fax Clark, un Ivoirien qui jouait la trompette, qui mettait un son terrible. Et c'était plein tout le temps. Donc j'arrive dans ce milieu... fasciné. 1, 2, le fait que tu arrives le lendemain, tu peux te trouver à loger à Bruxelles.
Et est-ce que c'est vous c'est à ce moment-là que vous faites la rencontre de Marie-Josée?
Oui.
Donc c'est... qui viendra
on,
votre
on
épouse.
On s'est mis ensemble le 7 février 57, tu vois.
Qu'on surnommait Coco.
Voilà. Elle s'appelait Louvaine Fosse en réalité. Elle était wallonne, elle était de Chauffontaine, à 4 kilomètres de Liège. Bon, je la rencontre, elle était mannequin, elle était tout ça.
Actrice, non, si.
Elle était comédienne et jouait dans... Voilà, j'ai un peu débauché l'affaire.
Elle était blonde.
Oui, en fait, je sais pas si c'est le mythe de la blonde, mais disons que les atomes étaient crochus. Et voilà, donc on a commencé à vivre ensemble, sans contrat, sans rien. Puis finalement, ça a duré jusqu'à sa disparition, en fait.
Il y a 18 ans, c'est ça, 1995.
En 95, oui.
Ça a été vraiment le grand amour de votre vie?
Ah oui, ça c'est évident ça, parce qu'on s'engueulait tout le temps, donc c'est la meilleure preuve.
Et vous dites d'elle, Coco était mon ange gardien.
Elle est toujours. Mmh. La différence c'est que le corps ne compte pas, c'est l'esprit. Je veux dire que c'est elle qui a cru, parce que moi je croyais pas, moi C'était comme tous les musiciens, tu rentres à 10h du matin, toi, tu joues la nuit, voilà, et puis vous jouez aux cartes, vous jouez à tout ce que vous voulez, vous buvez de la bière, et pas de programme, quoi. Et alors, et c'est elle qui m'a,
elle vous cadrait.
Et qui m'a cadré, tout d'un coup, j'avais du linge propre, je mangeais à FX, enfin bref, tout un tas de trucs qu'on pense pas toujours à cet âge-là. Mes copains, ils disent « Oh, mais on te voit plus », tout ça. Enfin, bref, bon, ça a commencé comme ça. Et par la suite, beaucoup plus tard, je voulais revenir en Belgique. Elle a pas voulu. Elle me dit « Si tu veux te bagarrer, c'est à Paris. » Personne ne me connaissait, bien sûr, puis j'avais jamais joué. Ça, c'est plus tard.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, elle a aussi influé le cours de votre carrière, même si vous aimez pas beaucoup ce mot, Manu Dibango.
Oui, quelque part. Elle a cadré à sa manière, un peu plus cartésien. Parce que moi, j'étais tout sauf cartésien, quoi. Moi, je me laissais faire, tu vois, des trucs comme ça. Mais j'ai eu la chance qu'à cette époque, il y avait beaucoup de travail. Je travaillais énormément et j'avais des chefs d'orchestre très durs, exigeants. Et donc, j'ai appris réellement sur le tas. Je veux dire que quand on devait répéter, on répétait devant les gens qui dansaient. Et le gars, il a amené les partitions à l'époque, tous les succès du jour, puisque c'était des cabarets où on jouait. Il fallait les jouer, on n'avait pas le temps de répéter. Moi, par exemple, je jouais à Charleroi, c'est à 1 heure de Bruxelles. Et tous les jours, je faisais Bruxelles, Charleroi, Charleroi, Bruxelles, tous les jours, 100 jours de congé, quoi. Donc, on n'avait pas le temps de prendre le temps de répéter, si bien qu'on répétait quand les gens dansaient déjà.
C'est une formidable école, ça.
Ben voilà, voilà, donc. Voilà.
Du coup, vous faites assez naturellement le lien avec les Anges Noirs, donc qui était un club branché que vous fréquentiez
oui.
à l'époque à Bruxelles, qui était un peu l'équivalent de chez Régine à Paris.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Et là, vous y faites la connaissance de l'African Jazz et de son chef d'orchestre, Zaïrois.
Cabasele.
Voilà, Joseph Cabasele. On est en 1960. C'est la période des indépendances où il y a 17 pays qui vont prendre leur indépendance.
Ben, j'ai vécu une histoire, c'est toujours pareil. Je veux dire, la table ronde. C'est là où on dit, à la table ronde à Bruxelles, c'est l'indépendance du Zaïre. D'où d'ailleurs le morceau qui s'appelle Indépendant Chacha que a fait Cabasele, qui est devenu donc l'emblème, l'hymne, si tu veux, des indépendances dans toute l'Afrique francophone.
Vous sauriez l'entonner,
Indépendant Chacha, ti di di di. Voilà, c'était le cha-cha-cha, hein, c'est pour te dire. Cha-cha-cha en Afrique, voilà. Mais tout était cha-cha-cha ou jazz, parce que son orchestre était l'African Jazz. On faisait tout sauf du jazz. Il y avait le Key Jazz, le Circuit Jazz, Bembea Jazz, tout était jazz, le mot sonnait bien. En fait, dans ce club-là, donc, les Anges Noirs qui appartenaient à un Sénégalais de moitié Casamance, moitié Cap-Vert. Tu vois, c'était un métis. Et donc, tous les politiciens congolais venaient là. Les Lumumba, les Kalonji, tout ce qui allait Kasabouvou, enfin tout le monde qui était à la table ronde venait s'amuser le soir. Alors j'ai côtoyé tous ces gens-là, les Mobutu et tout ça. Et dans ma tête, en fait, j'étais pas du tout dans la politique, mais j'étais toujours moi dans ma bulle musique, quoi. Mais je les voyais défiler autour de moi, si bien que j'ai participé à cette histoire-là comme témoin. Involontaire.
Et d'ailleurs, donc, vous faisiez référence à ce tube qui va symboliser vraiment les indépendances.
Eh ben,
plus largement que l'indépendance du Congo
d'ailleurs,
belge.
Ici, tout ce monde-là qui a participé. Et ça a été un énorme succès, tu vois. On peut pas imaginer maintenant, quand même.
Ouais, les paroles disaient l'indépendance, nous l'avons conquise, l'indépendance, nous l'avons obtenue, la table ronde, ils l'ont remportée, l'indépendance, nous l'avons conquise.
C'est ça.
Voilà. Et comment vous avez réagi? Vous dites, j'étais pas très concerné politiquement. Comment vous avez réagi à cette vague d'indépendance africaine, Manu Dibango?
La réaction a été quand les Belges, les pieds noirs, donc Belges, rentraient.
Donc c'était un peu l'équivalent des pieds noirs en Algérie.
C'est ça, c'est ça. Et c'est là où j'ai commencé à voir le phénomène du racisme. Jusque-là, on ne savait pas ce que c'était. Quand eux ils sont rentrés, on a vu que c'était des Blancs. Oui, mais des Blancs vivant en Afrique qui n'avaient rien à voir avec les Blancs qui vivaient en Europe. Hein, la notion du racisme, qui ne fréquentait pas les Noirs autrement que par boy interposé, des choses comme ça, des provocations, tout un tas. C'est là où on a commencé à se dire, tiens, donc il y a un autre monde... mais vraiment, c'est incroyable d'entrer là-dedans et de te rendre compte.
On évoquait Joseph Cabasele, donc, et son groupe l'African Jazz. Mm-hmm. Vous allez enregistrer avec lui. Et comment vous travaillez à l'époque les enregistrements? Parlez-moi un peu des conditions d'enregistrement.
D'abord, les conditions. La première condition, c'est que il venait donc en club et il me voyait jouer. Je jouais du piano, du saxo, du vibraphone. Et il avait besoin d'un saxo pour ses enregistrements parce que, malheureusement ou heureusement pour moi, son saxophoniste n'est pas venu, il était malade. Il avait donc besoin d'un saxophone. Donc, il me dit, est-ce que j'ai une vingtaine d'enregistrements? Ah, une vingtaine d'enregistrements, à l'époque, c'était encore des 78 tours avant que ça devienne des 45 tours.
Vous avez connu deux époques, vous.
Voilà, moi, j'ai
Même trois avec le
assisté.
CD.
Voilà, maintenant, MP3, quoi.
Ouais. Quatre, allez, quatre, soyons généreux.
Alors, pour moi, c'était monstrueux, quoi. Donc, rendez-vous donc au studio à 10 h du matin, comme on fait en Occident. Bon, donc, tu vas te coucher très peu, hein, puisqu'on finit à 5 h, tu te laves, et puis tu prends ta douche, et puis tu vas au studio, tu arrives à 10 h, il n'y a personne. J'étais avec un Cubain, d'ailleurs, Riestra, un très bon joueur de conga qui jouait dans un cabaret à côté, on était copains, quoi. On est tous les deux au studio. Pas un seul Congolais à l'horizon, dis donc. Ils arrivent vers 13 h. Ah bon, c'est une première pour nous, hein. Bon, ok. Voilà, ils arrivent un par un, ils sont tous là. L'ingénieur, il est comme nous, il est là depuis le matin, il devient nerveux et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il n'y a rien d'écrit, hein. Ah bon, parce que tu sais, à l'époque, tu entres au studio, tu as les pupitres, bazar, rien. Ah bon. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va dire, le guitariste va te faire ça, papa, 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 machin, et puis il chante une fois, et alors ils ont une mise en place. La deuxième voix, à la troisième répétition, ça colle et tout. Bon, toi, tu essaies de mémoriser, de faire des repères, hein, tu fais quand même des repères. Voilà. Et puis, on fait, dans la journée, on fait 5-6 morceaux. Bon. Le lendemain, on revient, pareil, hein, parce qu'ils passaient la nuit dehors, ils avaient pas, bon. Le patron, lui, des studios, Pelgrims, il connaissait la valeur de ces gars chez eux. Parce que le Congo a l'avantage de parler la même langue, le Lingala, si bien que quand tu es, ils étaient 15 millions à l'époque. Tu peux faire un disque d'or sans avoir besoin de venir ici. Bon, c'est ce qui se passait d'ailleurs. Et nous, au Cameroun, avec nos 200 dialectes, tu es populaire à Douala, tu n'es pas populaire à Yaoundé, quoi, tu vois, je veux dire. Bon. Alors, le lendemain, alors c'était pire parce que là, ils n'avaient rien de composé, là.
Tout s'inventait à vif comme ça
Ah
sur
ouais, ils
le
se mettaient à côté. Il écrivait. Puis nous, on attendait qu'ils se mettent au point. Et ça a été des tubes. Mais alors, ben, tu peux pas ça. Mais des tubes, tu vois, en Afrique. J'étais populaire en Afrique avant, je vivais ici. Je connaissais pas l'Afrique, je ne connaissais rien. Et j'étais populaire là-bas parce que les disques, quoi.
Donc il y avait l'école des bals, hein, que vous avez, des bals de campagne que vous avez
Ouais.
beaucoup fréquenté.
Ouais.
Et puis tout d'un coup l'école de Kabasele, l'école de
Cabaret. Et puis
cabaret.
Cabasélé.
Voilà.
Voilà.
Et alors à l'époque les droits d'auteur, comment ça se passait?
Il n'y en avait pas. Ah bah attends, les droits d'auteur, c'était les Belges qui étaient là-bas qui signaient en fait les trucs des Congolais. Et c'est à partir des Cabasélé d'ailleurs qu'ils ont commencé à percevoir quelque chose.
Fermons ce chapitre. Août 61, vous décidez de partir donc pour Léopoldville, qui est devenue
Ouais,
Kinshasa en
Kinshasa, ouais.
1960, donc au Congo. Vous y passez 2 ans en compagnie de Joseph Kabasele, qu'on évoquait, donc dit grand Calais. Et quelle ambiance il y avait là-bas? Parce que c'était complètement effervescent.
Ah ben c'était un peu le western hein, quand même, parce qu'il y avait la guerre au Katanga. Voilà, il y avait même des gens qui voulaient, des militaires qui voulaient acheter ma femme. Alors, je veux dire, un musicien qui a une blonde, forcément. Bon, c'est des trucs comme ça qui passent. C'est en même temps, j'apprenais à faire la musique urbaine africaine avec des gens qui font danser les Africains en Afrique. C'est important.
C'était une grande première
Dans
pour
mon
vous.
métier, quoi. C'est important de faire danser les gens avec des gens qui savent. Parce que une chose est de faire la musique africaine ici sans avoir mis pied en Afrique forcément, même si tu es africain. avec l'aide des machines et tout ça. Une autre chose est de le faire avec des gens qui le font régulièrement et qui ont un public pour ça. Donc, quelque part, je tire le côté positif de cette époque. J'ai appris à jouer cette musique-là, là-bas.
Vous dites que c'était Rio.
Oui, parce que Léopoldville, à l'époque, c'était une très, très belle ville. Une très, 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 très belle ville. Vraiment. Un peu comme si tu vas à Johannesburg, hein, je veux dire, voilà. En même temps, donc, il y avait l'apartheid là-bas. Hein. Les Noirs, ils devaient rentrer à la cité à 18h et tout ça. Mais après les indépendances, les Blancs étant partis, tout ça revenait aux Africains, bon, avec plus ou moins de bonheur, quoi.
C'est à cette époque-là, Manu Dibango, que vous gérez donc avec votre femme Coco, l'Afro-Négro.
L'Afro-Négro qui appartenait à Kabasele, parce que forcément je m'ennuyais un tout petit peu à faire leur musique. Moi, j'étais plutôt amoureux du jazz et bon, il y avait tout, comme je disais tout à l'heure, c'était pas encore. Bref, je m'ennuyais musicalement parlant. Donc, il m'a dit, mais j'ai un club là, tu peux le gérer, des trucs comme ça. C'est le premier club que je gère.
Donc là, c'est l'homme d'affaires, Manu Dibango, homme d'affaires, à distinguer de l'homme. Non,
Non, c'est lui qui a bassé l'homme d'affaires. Moi,
et vous?
ça me donne l'occasion de jouer autre chose que la rumba congolaise, hein, et de former un orchestre un tout petit peu. Et je suis resté là quelque temps jusqu'au moment où j'ai eu un autre ami, banquier de Colo, qui lui avait un meilleur club, et je suis parti chez lui sans être fâché avec Kabasele d'ailleurs.
C'est grosso modo à cette époque-là aussi que vous composez un titre qui s'intitule donc Twist à Léo,
C'est ça,
c'est ça,
en
1962,
62.
et donc qui enflamme la ville de
Et
Kinshasa.
déjà, parce qu'il n'y avait pas encore eu de twist africain. Il y avait eu des twists qui venaient d'Europe, par les Bob Azam.
Ça sonnait comment?
Ça sonnait comme un twist. Aïe, 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 aïe. En fait, c'était le twist dans les règles. Sauf que je parlais de Léopoldville, hein, de limiter à Kalina. Je citais les noms des quartiers de Léopoldville, qu'on danse le twist là, 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 là. Bon, les gens, ils s'accrochaient sur aïe, aïe, aïe. Jouez-nous un peu le truc qui s'appelle aïe, 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 aïe. Voilà, c'était le gimmick, quoi. Hein, c'était déjà le gimmick sans savoir.
Et là, de pianiste et de saxophoniste, finalement, vous devenez aussi chanteur.
Oui, mais je
Hein?
chantais toujours
Vous êtes
avant,
toujours.
mais
Ouais.
ça avait aucune incidence sur. Enfin, moi, je suis plutôt musicien-chanteur que chanteur-musicien, quoi. Mais ça, c'est l'image d'Armstrong, par exemple,
Tout à fait.
qui m'a habité. Le fait de chanter et de jouer, ça me dérangeait pas. Ça me dérange toujours pas, d'ailleurs.
1963, donc vous vous installez au Cameroun, finalement, à la demande de votre père, c'est ça? Il vous appelle, il vous dit, bah, vu que tu es en train
Puisque
de...
tu
T'as un club qui
fais,
marche bien
voilà, ben
au
pourquoi
Congo,
tu pas
pourquoi
le
tu viendrais pas
faire?
faire ça chez nous, plus près de la famille? Donc vous vous installez au Cameroun, vous montez le club Tam Tam,
Tam
à
tam,
Douala, qui est un peu le premier grand club donc au Cameroun. Vous avez composé beaucoup de morceaux. Et alors là, vous dites, c'est un succès mêlé de graves difficultés, une descente aux enfers, un gouffre financier. Pourquoi ça a
Oui,
capoté?
alors là, j'étais pas gestionnaire. Un, deux, il y avait le couvre-feu. Nous, on était en guerre civile quand même, hein, au Cameroun. Donc logiquement, tout se fermait à 23h30, c'était fermé. Sauf quelques privilégiés qui avaient des clubs parce qu'ils fricotaient avec la politique et tout ça. Mais moi, comme j'avais du succès, voilà, avec genre jalousie et tout ça. Donc on venait fermer deux ou trois fois comme ça, on ferme ton club, les clients ils viennent plus, hein, je veux dire. Puis moi, je n'ai jamais avant su comment prendre les méandres un peu tortueux de la magouille en tant que telle, quoi. Si j'étais magouilleur, j'aurais pas eu de problème, quoi.
À l'époque, vous êtes accusé de dévoyer la jeunesse parce qu'il y avait un collège qui était
Ah, ça, c'est un jésuite,
à
ça, ouais.
proximité du club.
L'abbé de Julio, oui, qui a écrit des articles dithyrambiques.
Bon, vous rentrez à Paris fin 65, vous jouez du jazz, donc il reste évidemment fondateur pour vous. Vous le soulignez précédemment. Il y a plein d'autres musiques qui viennent se greffer: latine, cha-cha-cha, boléro, tango, salsa, rumba.
Je joue tout.
Voilà, la biguine antillaise, le funk, la
Surtout la
soul.
soul.
Vous fréquentez les clubs de jazz parisiens, les Trois Maillets, le Chat qui Pêche, le Caméléon, la Bohème, tout en continuant à écumer les bals de campagne.
Ouais.
Et vous découvrez aussi le Rhythm and Blues, Otis Redding.
Ah ouais, ça a été une révolution musicale.
Et Booker T and the MGs.
Voilà, avec Otis Redding aussi, je veux dire. La révolution, elle est arrivée dans le club où on jouait à la Bohème, à Montparnasse, rue d'Odessa. Il y avait un club qui appartenait à la femme de Bud Powell. Hein, elle s'appelait Buttercup, cette femme-là. Et elle avait donc un club que fréquentaient les militaires américains, parce que bon, il y avait encore des bases américaines en France à cette époque-là. Donc, les gars, eux, ils venaient dans le club, il y avait un jukebox qui sonnait terriblement avec les oreilles de l'époque, hein. Alors, ils venaient avec leurs 45 tours que eux, ils écoutaient. La musique populaire américaine, qui n'avait pas rien à voir avec le jazz intellectuel que nous on consommait ici. C'est-à-dire que le jazz le plus dansant, c'était Jimmy Smith, tu vois. Tu vois, pap, 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 pap. C'est ça que nous on considérait comme la musique du jazz. Donc on avait 20 ans de retard sur l'Amérique dans ce sens-là. Et on a eu la chance, nous, de découvrir les Booker T et tout ça, les Steve Cropper, dans le jukebox. Et ça a changé tout.
Alors Booker T joue de l'orgue.
Ouais.
Et d'un coup, c'est la révélation pour vous.
Ben, moi, jouais, mais je savais pas comment on pouvait en jouer comme ça.
D'accord.
Je jouais à la Jimmy Smith et pas,
pas à la Booker T.
À la Stax, quoi.
Et là, vous faites la rencontre de Dick Rivers. 4 concerts avec lui, ça débouche sur la rencontre avec Nino Ferrer.
Mais en même temps, avec un malentendu au départ, je jouais donc, à la Bohème. Et puis, j'avais un trompettiste, très bon trompettiste d'ailleurs, et qui me dit, tiens, au fait, Dick, il fait un énième comeback, quoi. Bon. Il cherche un pianiste rock. Bon, est-ce que ça t'intéresse? Je dis oui, hein. Moi le rock, ça va. Je veux dire, c'est 12 mesures du blues, plus des triolets, quoi. C'est bon. Alors, ok, on a répété longtemps. Dis donc, on a fait peut-être 4 mois de répétition pour faire finalement que 4 ou 5 concerts. Mais c'était une autre école. Hein. On répétait chez Pathé Marconi. Et puis c'était le fait qu'accompagner une vedette, c'était valorisant à l'époque. Bon, je vais donc avec lui. Un orchestre qui s'appelle les Lionceaux, rien à voir avec le football au Cameroun.
Le Lion Indomptable.
Que c'est devenu après.
Le Lion Indomptable qui était donc le joueur de foot de l'équipe camerounaise, Roger Villa.
Roger Villa, oui, qui vient souvent, c'est un ami, hein, je veux dire, Roger, et Eto aussi.
Et grâce à Dick Rivers, en tout cas lors d'un des concerts.
Un après-midi.
Vous faites la rencontre.
Voilà, je fais la rencontre de Nino qui devenait vedette avec Gaston, il y a téléphone qui y sont et tout ça.
Il y avait Mirza,
Mirza, ça avait pas vu Mirza, pas bon, bah, bref, c'était le gars Soul qui chantait en français et il chantait bien Nino, par contre, c'est un vrai chanteur, hein, je veux dire. Bon, un après-midi, on faisait donc sa première partie, il me voit jouer dehors, il me dit, est-ce que tu es libre? Pourquoi? Parce que son organiste est Estardi, qui s'appelait Baron Estardi.
Bernard Estardi, oui.
Bernard, il partait parce qu'il allait ouvrir un studio, CBE. Donc il pouvait plus jouer. Et comme par hasard, comme pour Kabasele, qui cherchait un mec, Nino, il cherchait un mec et j'étais là. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, quoi. Ça, en fait, c'est ça. Je dis oui, bon, j'ai pas tellement cru parce que vraiment, il était fort. 15 jours après, il m'appelle. À l'époque, j'avais pas de téléphone. C'est le bistrot d'en bas où j'avais quelques additions et tout, là. Madame Simon disait, non, tu me paieras plus tard, tu vois. J'habitais Gare de l'Est. Voilà son fils qui monte chez moi. Papa. Manu, il y a Nino Ferrer. Ah, c'est l'événement du quartier quand même. Nino appelle Manu. Bon. Donc, je suis allé répéter chez lui. Il habitait pas loin de la maison de la radio. Et donc, on répète, et puis on va jouer, et puis de fil en aiguille, j'entre chez lui, organise, j'abrège, hein, j'entre chez lui comme organiste, mais j'avais mon orchestre de la Bohème de l'époque, et je continue à jouer, alors je joue au Club Saint-Germain.
Je précise quand même, avec 3 jours pour vous approprier son répertoire, ce qui était quand même...
Ah ouais, ça par contre, ça, il fallait mouiller sa chemise.
Un sacré défi.
Je connaissais pas bien l'orgue, donc je dessinais un peu des tirettes, quoi. Ça, c'est ça, 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 ça. Au début, je sais pas s'il allait me garder. Finalement, il m'a gardé. La première tournée, je crois que c'est une quarantaine de dates. Et je jouais du sax avec un autre gars dans l'orchestre que j'avais. Et il arrive un jour en goguette, quoi. Je veux dire, il sort au club Saint-Germain, il descend. Et il me voit jouer du sax. Ah ben Manu, ah ben alors tu m'as pas dit que tu étais saxophoniste. J'ai dit ouais, mais tu m'as pas demandé, tu vois, moi j'ai... Voilà un peu comment ça s'est passé. Je suis devenu saxophoniste et chef d'orchestre chez Nino pendant 4 ans.
Et quand même une chose importante, c'est qu'il vous donne votre chance à une époque où il y a finalement assez peu de noirs qui sont à l'affiche. Il y avait Henri Salvador. Il y avait Henri Salvador Lantier.
Ben c'est Salvador qui représentait les noirs en France, dis donc. Alors tu vois, je veux dire... Voilà, c'était comme ça.
Il y avait John Williams.
Ouais, bah c'est les métis qui
chantaient aussi. Tu m'abandonnes.
Voilà, entre autres. Eh ben, il y avait le docteur un jour Lara, toutes les musiques de films, c'est Williams qui les faisait. Et sa maman était ivoirienne et son père était français d'ailleurs, John Williams. Nino, il chantait. Je voulais être noir. Je voudrais être noir. Bon, mais. Son noir à lui, c'était le Mississippi et pas les cocotiers du... Tu vois, mais moi, j'étais noir, je jouais l'orgue, mais j'étais pas africain. Alors, c'est un malentendu, quoi.
Merci beaucoup, Manu Dibango. Bonsoir, et puis on se retrouve demain pour évoquer la suite avec le succès de Saul Makossa.
Bonsoir et à demain.
C'était à voix nue. Toute cette semaine, Jérôme Sandelard rencontre Manu Dibango. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Julien Bourdet. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Sandelard avec Manu Dibango.